Nous sommes le mercredi 11 octobre, moi c'est Bruno Roca, bonjour. Et je vous accueille avec joie dans cette nouvelle revue de presse JV. Allez, on se réveille, on se met bien, on boit son kawa, youpi tralala, let's go! Quelle joie et quel honneur de vous accueillir une fois de plus pour cette revue de presse JV quotidienne. Merci d'être là, merci aux habitués, merci aux nouveaux, merci à tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien écoutez, moi je propose qu'on attaque tout de suite. De l'action, du panache, du rythme, c'est comme ça que je mène ma vie finalement. Une fois n'est pas coutume, on va s'enchaîner 4 news comme ça. Parce que pourquoi pas finalement, je sais, c'est un peu foufou de ma part. On va commencer avec Suda 51, Goichi Suda, l'un de mes créateurs de jeux vidéo favoris, qui s'est confié à Game Informer, et ça c'est Gameblog qui nous rapporte ça sous la plume de Thomas Pillon. Et Suda nous dit qu'il aimerait continuer à revisiter certains de ses vieux jeux, car vous savez que The Silver Case et Flower, Sun and Rain sont ressortis en HD, un petit peu légèrement revisités en tout cas. Les premiers jeux donc du créateur complètement punk et déglingo Suda 51, et bien évidemment, on lui pose toujours la question de Killer 7, le jeu qui l'a rendu célèbre, produit par Shinji Mikami, où on incarnait 7 personnalités différentes dans un jeu absolument gore, nimbé d'une direction artistique complètement folle et d'effets stylistiques totalement ahurissants, qui était très axé rail shooter. Bref, Suda nous aurait dit « Dans le futur, j'aimerais voir d'autres remakes sortir sur Steam ou quelque chose dans le genre. Ce serait vraiment cool. » En ce qui concerne Killer 7, à l'heure actuelle, c'est un jeu qui n'est vraiment plus facile à jouer. C'est véritablement un jeu que je souhaiterais revisiter et mettre à jour. Alors Killer 7, qui était sorti à l'origine sur GameCube, puis qui avait été porté sur PS2, est un jeu culte, hein, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Il est vrai qu'il serait peut-être un petit peu aride là à aborder en 2017. Moi ce que j'aimerais ce serait qu'on ait un portage des deux premiers No More Heroes, ça ce serait fabuleux, mais bon on peut toujours rêver, hein. Ça c'est gratuit. Tiens, je crois que ça fait 2-3 émissions qu'on n'a pas reparlé de Dragon Ball FighterZ. Eh ben on va en reparler. Donc on savait déjà que Sangohan faisait partie, Sangohan adolescent, hein, le Sangohan de l'arc Cell, participerait donc au jeu, on l'avait déjà vu, mais non, là il a son petit trailer officiel qui vient de sortir. Alors, vous pouvez trouver ça sur tous les sites de la galaxie, je vais pas vous donner un nom particulier. Je suis même sûr que si un site s'appelle Youpi Jeu 2000, il a ce trailer, parce que c'est Dragon Ball Z finalement. Donc bah, on peut voir Sangohan aider de l'esprit de son papa, mettre une sacrée race à Cell, hein, comme dans cette scène absolument mythique de l'arc Cell, c'est à savourer avec ses non-œils et ses oreilles, pas plus tard que maintenant. On a aussi eu quelques petites infos sur The Evil Within 2, donc la suite du jeu d'horreur de Shinji Mikami, même s'il me semble que sur ce deuxième épisode il sera que producteur et pas réalisateur. Alors là j'ai un doute sur le moment, vous me direz ça dans les commentaires si j'ai complètement merdé, je me flagellerai avec des orties fraîches en écoutant du Larousseau, du bon vieux Larousseau. Mon dieu, quelle horreur. Donc on a appris que The Evil Within 2 pèsera 29,86 gigaoctets sur PlayStation 4, 31 gigaoctets sur Xbox One, soit environ 10 gigaoctets de moins que sur PC, car sur le PC, ça pèsera environ dans les 40 gigaoctets. Donc peut-être que tu te contrefoutais absolument de cette information, mais tu n'as pas le choix, c'est trop tard, je te l'ai donné. Autre news qu'on peut lire un petit peu partout, alors Gameblog, jeuxvideo.com, GameTruc, mon cul sur la commode, tout ce que tu veux, c'est que Nintendo a déclaré sur la page officielle de Super Mario Odyssey, hein, qui se rapproche à grands pas, ne l'oubliez pas, Nintendo a voulu rassurer les fans en déclarant que toutes les tenues, vous savez que c'est un jeu qui fait la part belle aux tenues de Mario, vu qu'il en a vraiment toute une tripotée, et bien sachez que toutes ces tenues super classe pour Mario pourront être débloquées sans Amiibo. Et ça, ça fait plaisir, puisqu'il y a plein de tenues qui font référence à d'anciens jeux Mario. Je crois qu'on s'achemine vers le jeu Mario le plus fanservice de l'histoire, et déjà Super Mario Maker, qui est un miracle absolu et le plus bel hommage qu'on ait pu faire à un fan de Mario, je ne le répéterai jamais assez. Donc Super Mario Maker comportait déjà une tonne de clins d'œil, vraiment fanservice. Et là, je pense qu'avec Super Mario Odyssey, on reste sur la même philosophie. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Et je rappelle donc que Super Mario Odyssey est attendu le 27 octobre prochain sur Nintendo Switch. On voit fleurir un petit peu partout, alors que ce soit à travers des articles, des vidéos, bref, tout l'internet ne jure que par des tutos pour hacker sa Super NES Mini. Alors on en avait déjà parlé dans cette émission, mais là ça prend une ampleur pas possible, puisque le logiciel dédié à ce hacking se met à jour régulièrement, et visiblement ça fonctionne très bien, tout du moins avec des ROM US et japonaises, alors si j'ai bien suivi. Moi personnellement, il n'est pas question que je fasse cette opération sur la mienne, parce que j'ai trop peur de la briquer, c'est-à-dire qu'elle tombe en panne. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, si parmi vous, certains possèdent une Super NES Mini, qu'est-ce que vous pensez de ce hacking? Parce que c'est vrai que c'est toujours très attirant quand on voit ces vidéos. On peut rajouter des dizaines d'autres jeux, des hits, bah, qui manquent à l'appel et qui nous font super envie aussi. Ça fait envie, on a envie de faire cette opération de hacking. Mais personnellement, bon, moi, je joue énormément en ce moment avec mon fils à la Super NES Mini. Et j'aurais trop peur, voilà, de la briquer, qu'il se passe un incident technique, etc. En tout cas, on voit ça en ce moment partout. Est-ce que ça vous saoule que le hacking, entre guillemets, donc effectivement quelque chose qui est complètement non officiel, illégal, sur une machine qui, elle, propose une offre légale, est-ce que déjà ça vous gêne? J'aimerais bien avoir votre avis. Et est-ce que, en tout cas, ceux parmi vous qui ont une Super NES Mini, bah est-ce que ça vous titille de la modifier comme ça? J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Alors, je sais pas si là, je vais perdre les trois quarts des auditeurs, mais j'aimerais parler d'un jeu qui intéresse peut-être trop peu les en France, mais allez, pourquoi pas. Je vais vous parler de Yomawari. Alors, qu'est-ce que c'est Yomawari? C'est un jeu qui est sorti en 2016, un jeu de Nipponichi, alors un éditeur japonais notamment très connu pour ses tactical RPG Disgaea. Yomawari, c'est un jeu en vue, on va dire, aérienne, enfin en tout cas qui simule une 3D isométrique, dans une ambiance très kawaii, où on dirigeait une petite fille, mais dans un Japon plongé dans la pénombre, parce que le jeu se passait la nuit, et c'était un peu une ambiance survival horror, mais en même temps très mignonne. Il fallait éviter des monstres dans des ruelles peu éclairées et résoudre des énigmes. Alors je sais que de mémoire sur Gamecult, le jeu s'est un peu fait casser, parce que visiblement il était très répétitif et très frustrant dans sa manière d'amener tous les challenges. Donc on s'éloignait du côté survival horror, entre guillemets, classique de la chose, pour un jeu plus en die and retry. En tout cas, c'est ce que j'avais compris. Figurez-vous que Yomawari va avoir une suite sous-titrée Midnight Shadows, et c'est Jarod qui nous en parle sur Gamecult. Il nous dit « Nice America diffuse une nouvelle bande-annonce de Yomawari Midnight Shadows, un titre dont la sortie approche en même temps que les festivités de Halloween. Cette suite de Yomawari Night Alone met en scène, pour rappel, deux protagonistes pour le prix d'une, les petites Yuri et Haru, que le joueur devra incarner à tour de rôle tout en échappant aux terrifiantes manifestations spectrales qui hantent chaque coin de rue. La formule du premier épisode devrait gagner un peu en richesse grâce à des environnements plus variés, un meilleur niveau d'interaction ou encore la possibilité d'équiper des charmes pour courir plus vite ou gagner en endurance. En Europe, Yomawari Midnight Shadows sera disponible 27 octobre en boîte. Alors ça, c'est vraiment top en boîte. Je fais une aparté, mais ça, je suis assez étonné pour tout vous dire. Et en téléchargement sur PS4 et PlayStation Vita. En notant que la version boîte PS Vita sera disponible uniquement chez Micromania. Les joueurs Steam pourront de leur côté télécharger le jeu dès le 24 octobre. Ah, ça c'est cool. Et puisqu'on parle de Yomawari, Nipponichi a annoncé il y a 2 semaines que les ventes des 2 épisodes ont dépassé les 100 000 exemplaires au Japon. J'ai regardé ce trailer. Si vous aimez tous ces jeux qui nous viennent du Japon, ça ne peut que vous faire craquer. C'est magnifiquement beau. Alors j'ai pas eu l'occasion de faire le premier, faute de temps. Puis effectivement, toutes ces critiques négatives qui revenaient, ça m'avait un petit peu refroidi. Je dois bien vous l'avouer, mais quand je regarde ce trailer pour cette suite, donc Midnight Shadows, vraiment, si vous aimez les jeux japonais, fatalement, vous êtes obligé de craquer devant une direction artistique aussi maîtrisée. C'est magnifiquement beau. Alors, en espérant que le game design suive, ça pourrait être vraiment quelque chose d'assez excellent. Alors bon, j'ai une liste de jeux longue comme le bras à finir et longue comme 4 bras à acheter quand j'aurai un petit peu plus de budget. Donc voilà, je vais pas vous le cacher, il arrive pas non plus en tête de ma pile, Midnight Shadows, mais voilà, ça titille quand même bien ma curiosité, donc je vous invite à aller voir ce trailer. Donc je vous redonne le nom, c'est Yomawari Midnight Shadows. Nous en parlions hier et je vous posais la question, à votre avis, est-ce que Cuphead est trop dur? Est-ce que sa difficulté très élevée ne le dessert pas au final? Alors Cuphead, je le rappelle très rapidement, c'est ce jeu de plateforme action avec une esthétique renvoyant au cartoon des années 30. Il fait vraiment en ce moment parler de lui quasi constamment. C'est un carton, il est 2e des ventes sur Steam, derrière PUBG, enfin tout ça on en a parlé. Mais je vous posais la question, pourquoi serait-ce un mal finalement de rendre un jeu plus accessible? Pourquoi il n'y a pas de véritable mode easy pour pouvoir en profiter avec ses enfants, avec des gens un petit peu moins doués? Ou alors tout simplement puisque, je sais pas si certains d'entre vous ont un âge canonique comme le mien, n'est-ce pas? Mais j'ai connu les jeux d'arcade des années 80, des années 90, où c'était effectivement très dur. J'ai réussi, au bout de semaines, de mois d'entraînement, à finir par exemple chaque épisode de la saga Mike Aimura, enfin des Ghosts and Goblins, mais à l'époque, faut savoir qu'on avait plus de temps, on était soit à l'école, soit étudiant, on avait plus de temps quoi qu'il arrive. Là, aujourd'hui, c'est vrai que rager pendant 2 heures sur un niveau, sachant qu'à côté on a un boulot, on a une vie de famille, est-ce que tout ça c'est vraiment raisonnable? Donc je vous ai posé la question sur les réseaux sociaux, et donc je vais livrer quelques-unes de vos réponses, et c'est bien d'avoir un petit patchwork d'avis comme ça de différents joueurs, je trouve ça toujours très éclairant. Alors, Lord Sinclair 3DS me dit sur Twitter, je milite pour avoir un mode facile, voire ultra facile bébé dans chaque jeu, imaginez Zelda en mode balade pour les petits enfants. Ou encore un Mario 2D ou 3D où tu peux pas mourir ni tomber, ce serait juste un autre style de jeu pour les tout petits ou adultes pressés. Ce qui n'empêche pas de proposer des défis aux joueurs émérites, comme des objets spéciaux, étoiles, lunes, etc. dans les Mario. Tu as tout à fait raison, Lord Sinclair, je ressors très souvent l'exemple de Mario. Je répète très souvent aussi qu'à partir de Super Mario World, il y a eu vraiment cette philosophie de jeu à plusieurs lectures, hein, à plusieurs niveaux de lecture, pour que tout le monde puisse s'amuser, pour que le challenge, ceux qui veulent vraiment se frotter un challenge ardu aient des récompenses en conséquence, mais que celui qui veut juste se balader un petit peu ait quand même un petit biscuit. Alors des jeux on ne meurt jamais, il y en a eu, si vous prenez par exemple Kirby au fil de l'aventure sur Wii, qui est excellentissime, on ne meurt jamais, et pourtant il y a du challenge, mais il est ailleurs, c'est-à-dire c'est récolter les gemmes, etc. Alors pas les gemmes comme sur Facebook, hein, des pierres précieuses, précise. Le level design, les petites idées, on pouvait jouer à deux simultanément avec ses enfants. Voilà, le plaisir était ailleurs, mais il n'en était pas moins intense, quelque part. Mikachu sur Twitter nous dit « Perso, trop de difficultés me rebutent, sauf quand il y a une récompense à la clé. Comme Binding of Isaac, peut-être dur, mais jouissif. » Matt nous dit « En tant que joueur très moyen, avec un temps de jeu limité, oui, malheureusement. » Donc oui, malheureusement, ça le rebute, cette difficulté. Alors que l'aspect visuel, donc il parle de Cuphead, en faisait presque un stand-by. Je suis tout à fait d'accord. Cédric Deré nous dit « Personne à l'époque d'un Gunstar Heroes ou d'un Ghost and Globins ou d'un Silhouette Mirage n'est venu pleurer. Je ne suis pas bon joueur et je m'en fous, je fais avec. La difficulté d'un jeu ne m'empêche pas d'y prendre du plaisir. Un mode ultra facile, pourquoi pas? Il en faut pour tout le monde, Nintendo l'a compris, en incluant du plaisir et du challenge dans ses jeux. » Voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec la deuxième partie de ton intervention. Quant à la première, quand tu dis qu'à l'époque ça nous gênait pas, comme je disais tout à l'heure, on avait aussi vachement plus de temps, il y avait en plus beaucoup moins de sorties, on pouvait s'acheter aussi beaucoup moins de jeux, enfin se faire acheter aussi beaucoup moins de jeux. Donc voilà, il faut prendre tous ces éléments quand même en compte, c'est hyper important. Alors Grégory Ryu nous dit que les joueurs souhaitent que Cuphead soit moins dur et compréhensible, qu'il remette en question le talent des game designers du jeu à cause de l'absence d'un mode easy est une bêtise. Alors là, je suis pas du tout d'accord avec toi, bon, pour les raisons que j'ai exprimées plus haut. Cuphead, tel qu'il est disponible aujourd'hui, correspond à la vision de ses créateurs. On a le droit d'y adhérer ou non, mais pas de parler de ratage. Alors, bien sûr, je parle pas du tout de ratage, hein. Je parle vraiment de l'angle qui est donné, trop peu souple, entre guillemets. 8 Avenue du Geek nous dit « Si tu as joué dans les années 90, je pense que la difficulté n'est pas non plus énorme. » Alors ça, c'est vrai que j'y suis revenu là, il y a quelques secondes. Il suffit de lancer un Ghost and Goblin ou un Megaman pour comprendre ce qu'est une difficulté. Car malgré des patterns assez difficiles et à connaître par cœur, la maniabilité est parfaite, donc ça rend le jeu moins difficile que les bons vieux jeux 8 et 16 bits. Alors attention, il y avait des jeux... Alors, 8 bits, je suis d'accord, mais il y avait des jeux 16 bits. Tu les ressors maintenant, le gameplay est... vraiment au taquet, on était passé vraiment une époque de modernité à ce niveau-là, et certains grands hits de cette époque n'ont pas du tout vieilli en termes de maniabilité de nos jours. Quant au fait que si on a connu les jeux des années 90, etc., bon, j'en ai parlé tout à l'heure, donc merci pour ton témoignage, et merci d'ailleurs à tous ceux qui ont participé à ce petit, à ce petit appel à témoins. J'ai dû couper certaines réponses car elles étaient assez longues, mais vraiment, je vous remercie énormément d'avoir répondu à l'appel. Bon, quant à moi, ça ne retire pas l'envie que j'ai cheville au corps de faire Cuphead, mais je persiste à dire, et vous n'êtes vraiment pas obligé de partager mon avis, hein, ça y est, aucun problème, que les développeurs auraient pu proposer un peu plus de mode, voilà, pour un petit peu plus de souplesse, mais enfin voilà. Mais bon, ça ce n'est que mon avis. Allez, petite news de dernière seconde, parce que je vous aime bien, je ne peux pas décidément la laisser passer. On vient d'apprendre tout le détail du Season Pass et du contenu gratuit post-lancement d'Assassin's Creed Origins. Je suis sûr que parmi vous, il y en a quelques-uns qui l'attendent. Alors, c'est Ubisoft hein, qui nous a dévoilé tout le truc. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Que le Season Pass d'Assassin's Creed comprendra un premier DLC, The Hidden Ones. Cette extension, nous dit jeuxvideo.com, s'articule autour du développement de la confrérie, transportant les joueurs des années après les événements d'Assassin's Creed Origins. On aura un, alors ça c'est en janvier 2018, on aura un second DLC, The Curse of Pharaohs, une extension focalisée sur la mythologie égyptienne qui permettra aux joueurs d'affronter des pharaons revenus de l'au-delà au sein d'un nouveau royaume mystique. Donc ça, apparemment, ça aidera les joueurs à accroître leur progression et d'accéder à de nouvelles compétences. C'est pour mars 2018. suite. Alors toujours dans ces Season Pass, des packs Centurion Romain et Horus, deux packs de contenu additionnels incluant deux nouvelles tenues, armes, boucliers et montures. Ça ce sera pour le mois de novembre de cette année. Un pack de 500 crédits Elix, hein, disponible au lancement du jeu, la lame Calamité, une arme légendaire exclusive, ce sera disponible au lancement du jeu, pardon. Donc ce Season Pass est inclus dans l'édition Gold d'Assassin's Creed Origins et sera disponible séparément au prix de 39,99€. Et donc il y aura du contenu gratuit en plus de ce Season Pass qui offrira d'après Ubisoft de nouvelles opportunités de gameplay, plein de défis comme The Trials of The Gods, des batailles épiques contre les dieux égyptiens qui se dérouleront lors d'événements spéciaux et permettront aux joueurs victorieux de recevoir des récompenses prestigieuses, le bazar des nomades, donc ça c'est un marchand vagabond qui proposera aux joueurs des quêtes quotidiennes à compléter afin d'obtenir de mystérieuses récompenses, c'est disponible au lancement du jeu, un mode photo, un mode horde, un discovery tour, bref blablabla, plein de trucs. Alors pour les détails les plus précis possibles, je vous renvoie à jeuxvideo.com, je pense que Gamecult ne va pas tarder à en parler, etc. etc. Allez-y, c'est open bar. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition, cette nouvelle édition de la revue de presse JV. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné un petit peu la patate avant d'attaquer cette journée. Et là, je sais que vous vous posez la question, comme chaque jour, où nous retrouver ? Eh bien, sur iTunes, sur PodCloud, sur YouTube, comme je vous l'ai dit. YouTube, hein, c'est sur ma chaîne perso, chez Bruno, CHZ, _ Bruno. Ben, je sais, je me répète, je radote, vous avez l'habitude, mais je pense aux nouveaux venus. Mettez-moi plein de petites étoiles sur iTunes si ça vous a plu, bien évidemment, laissez-moi des petits commentaires, ça fait toujours super plaisir. Vous pouvez venir me parler sur Twitter, @revuedepressejv, tout collé, sur la page Facebook, la revue de presse JV. Tous ces liens se retrouvent et vous attendent, vous tendent les bras sur larevuedepressejv.wordpress.com. C'est le blog voilà, où tous les liens sont un petit peu centralisés. Et vous avez toujours aussi le petit player YouTube pour écouter l'émission du jour. Merci de m'avoir écouté jusque-là. J'ai peut-être un peu bafouillé sur la fin car la fatigue se fait sentir, mais ne vous inquiétez pas, vous allez me retrouver demain en forme, pétant le feu. Je vous souhaite une bonne journée, que la force soit avec vous, et je vous dis à demain. Allez, bye bye.